France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est en 1859 que paraît en même temps à Paris et à Bruxelles la première série de la Légende des siècles. Ce titre ne s'impose à Victor Hugo que quelques semaines avant de rendre son manuscrit, recouvrant ce qui était initialement, et sans la même ambition, petites épopées. Après la Belgique et Jersey, Victor Hugo est alors, depuis 4 ans, exilé à Guernesey et il dédie ainsi cette première publication de sa Légende des siècles à son pays. Livre qu'un vent emporte en France où je suis né. L'arbre déraciné donne sa feuille morte. C'est dans la 5e section du tome 1er, intitulé « Les chevaliers errants », que l'on trouve « Eviratnus », poème pour lequel Victor Hugo a sans doute eu recours à ses notes et souvenirs de ses voyages sur le Rhin. En 1957, le club d'essai de la RDF donnait sur la chaîne nationale une version radiophonique de « Eviratnus » réalisée par Alain Barrou. Une musique originale signée Maurice Jarre y accompagnait les vers de Victor Hugo qui étaient dits par Alain Cuny.
La radiodiffusion française présente les riches heures du poème légendaire. Une émission d'Alain Barrou réalisée par le Club d'essai. Aujourd'hui, Eviratnus de Victor Hugo, avec le concours d'Alain Cuny. Musique originale de Maurice Jarre. Mise en onde d'Alain Barrou.
Est-ce que Sigismond et Ladislas ont dit? Je ne sais si la roche ou l'arbre l'entendit. Mais quand ils ont tout bas parlé dans la broussaille, l'arbre a fait un long bruit de taillis qui tressaille, comme si quelque bête en passant l'eût troublé. Et l'ombre du rocher ténébreux a semblé plus noire, et l'on dirait qu'un morceau de cette ombre a pris forme et s'en est allé dans le bois sombre. Et maintenant, on voit comme un spectre marchant là-bas dans la clarté sinistre du couchant. Ce n'est pas une bête en son gîte éveillé. Ce n'est pas un fantôme éclos sous la feuillée. Ce n'est pas un morceau de l'ombre du rocher qu'on voit là-bas au fond des clairières marcher. C'est un vivant qui n'est ni strige ni les murs. Celui qui marche là, couvert d'une âpre armure, c'est le grand chevalier d'Alsace, Eviratnus. Ces hommes qui parlaient, il les a reconnus. Comme ils se reposaient dans le hallier, ses bouches sont passées, murmurant des paroles farouches. Et jusqu'à son oreille, un mot est arrivé. Et c'est pourquoi ce juste et ce preux s'est levé. Il connaît ce pays qu'il parcourut naguère. Il rejoint l'écuyer Gasclin, page de guerre, qui l'attend dans l'auberge au plus profond du Val, où tout à l'heure il vient de laisser son cheval pour qu'en hâte on lui donne à boire et qu'on le ferre. Il dit au forgeron, « Faites vite, une affaire m'appelle. » Il monte en selle et part. Et Viradnus, vieux, commence à sentir le poids des enchenus. Quand il songe et s'accoude, on dirait Charlemagne. Rôdant tout hérissé du bois à la montagne, velu, fauve, il a l'air d'un loup qui serait bon. Il a 7 pieds de haut comme Jean de Bourbon. Il est le fort, ami du faible. Il attaqua dans leurs antres les rois du Rhin, et dans leurs bauges les barons effrayants et difformes des Vosges. Tel fut Eviradnus. Dans l'horrible balance où les princes jetaient le dol, la violence, l'iniquité, l'horreur, le mal, le sang, le feu, sa grande épée était le contrepoids de Dieu. Il rit des ans, cet homme à qui le monde entier n'eût pas fait dire grâce et demander quartier. Qu'importe l'âge, il lutte. Il vient de Palestine. Il n'est point là, les ans s'acharnent, il s'obstine. Quelqu'un qui s'y serait perdu ce soir verrait quelque chose d'étrange au fond de la forêt. C'est une grande salle éclairée et déserte. Où ? Dans l'ancien manoir de Corbus. L'herbe verte, le lierre, le chien dans l'églantier sauvageon font depuis 300 ans l'assaut de ce donjon. Le burg, sous cette abjecte et rampante escalade, meurt. Comme sous la lèpre un sanglier malade. Il tombe, les fossés s'emplissent des créneaux, la ronce, ce serpent, tord sur lui ses anneaux. Le moineau franc, sans même entendre ses murmures, sur ses vieux pierriers morts, vient becqueter la mure. L'épine sur son deuil prospère insolemment. Mais l'hiver, il se venge. Alors le burg dormant s'éveille. Et quand il pleut pendant des nuits entières, quand l'eau glisse des toits et s'engouffre aux gouttières, il rend grâce à l'ondée, au vent, et, content d'eux, profite pour cracher sur le lierre hideux des bouches de granit de ses 4 gargouilles. Le burg est au lichen comme le glaive aux rouilles. Hélas, et Corbus, triste, agonise. Pourtant, l'hiver lui plaît. L'hiver, sauvage combattant, il se refait avec les convulsions sombres des nuages hagards croulant sur ses décombres, avec l'éclair qui frappe et fuit comme un larron, avec des souffles noirs qui sonnent du clairon, une sorte de vie effrayante à sa taille. La tempête est la sœur fauve de la bataille. Aussi, malgré la ronce et le chardon et l'herbe, le vieux burg est resté triomphal et superbe. Il est comme un pontife au cœur du bois profond. Sa tour lui met 3 rangs de créneaux sur le front. Le soir, sa silhouette immense se découpe. Il a pour trône un roc, haute et sublime croupe. Et par les 4 coins, sud, nord, couchant, levant, 4 monts, Crobius, Bleda, géant du vent, Aptar, où croît le pin, Toxi, que verdit l'orne, soutiennent au-dessus de sa tiare énorme les nuages, ce dais livide de la nuit. »
pâtre a peur et croit que cette tour le suit. Les superstitions ont fait Corbus terrible. On dit que l'archer noir a pris ce burg pour cible et que sa cave est l'antre où dort le grand dormant. Car les gens des hameaux tremblent facilement. Les légendes toujours mêlent quelques fantômes à l'obscure vapeur qui sort des toits de chaume. L'âtre enfante le rêve, et l'on voit ondoyer l'effroi dans la fumée errante du foyer. Corbus voit rarement au loin passer un homme, seulement tous les 15 ou 20 ans, l'économe et l'huissier du palais, avec des cuisiniers portant tout un festin dans de larges paniers, viennent. Font des apprêts mystérieux et partent. Et le soir, à travers les branches qui s'écartent, on voit de la lumière au fond du burg noirci, et nul n'ose approcher. Et pourquoi ? Le voici.
C'est l'usage, à la mort du marquis de Lusas, que l'héritier du trône en qui revit la race, avant de revêtir les royaux attributs, aille une nuit, souper dans la tour de Corbus. Corbus est le berceau de la royauté scythe. Or, le nouveau marquis doit faire une visite à l'histoire qu'il va continuer. La loi veut qu'il soit seul pendant la nuit qui le fait roi. Au seuil de la forêt, un clerc lui donne à boire un vin mystérieux versé dans un ciboire qui doit, le soir venu, l'endormir jusqu'au jour. Puis on le laisse. Il part et monte dans la tour. Le lendemain, on vient en foule, on le délivre. Et, plein des visions du sommeil, encore ivre de tous ces grands aïeux qui lui sont apparus, on le mène à l'église où dort Borivorus. L'évêque lui bénit la bouche et la paupière et met dans ses deux mains les deux haches de pierre dont Attila frappait juste comme la mort, d'un bras sur le midi, de l'autre sur le nord. Même quand l'héritier du trône est une femme, le souper de la tour de Corbus la réclame. C'est la loi. Seulement la pauvre femme a peur.
La nièce du dernier marquis, Jean le Frappeur, Mao, est aujourd'hui marquise de Lusas. Dame, elle a la couronne, et femme, elle a la grâce. Une reine n'est pas reine sans la beauté. C'est peu que le royaume, il faut la royauté. Mais la douce Mao, dans ses temps de malheur, tient trop le sceptre, hélas, comme on tient une fleur. Elle est gaie, étourdie, imprudente et peureuse. Toute une Europe obscure autour d'elle se creuse, et quoiqu'elle ait 20 ans, on a beau la prier, elle n'a pas encore voulu se marier. Il est temps cependant qu'un bras viril l'appuie. Comme l'arc-en-ciel rit entre l'ombre et la pluie, comme la biche joue entre le tigre et l'ours, elle a la pauvre belle aux purs et chastes jours, deux noirs voisins qui font une noire besogne. L'empereur d'Allemagne et le roi de Pologne. Toute la différence entre ce sombre roi et ce sombre empereur, sans foi, sans Dieu, sans loi, c'est que l'un est la griffe et que l'autre est la serre. Tous deux vont à la messe et disent leur rosaire. Ils n'en passent pas moins pour avoir fait tous deux dans l'enfer un traité d'alliance hideux. Quoique l'un soit la haine et l'autre la vengeance, ils vivent côte à côte en bonne intelligence.
Tous les peuples qu'on voit saigner à l'horizon sortent de leur tenaille et sont de leur façon. Leurs deux figures sont lugubrement grandies par de rouges reflets de sacs et d'incendies. D'ailleurs, comme David, suivant l'usage ancien, l'un est poète et l'autre est bon musicien. Et les déclarant Dieu, la renommée allie leur nom dans les sonnets qui viennent d'Italie. Chacun s'est fait sa part. L'Allemand n'a qu'un soin. Il prend tous les pays de terre ferme au loin. Le Polonais, ayant le rivage baltique, veut des ports. Il a pris toute la mer celtique. Sur tous les flots du nord, il pousse ses draimons. L'Islande voit passer ses navires démons. L'Allemand brûle Anvers et conquiert les deux Prusses. Le Polonais secourt Spotocus, duc des Russes, comme un plus grand boucher en aide un plus petit. Le roi prend, l'empereur pille, usurpe, investit. L'empereur fait la guerre à l'ordre teutonique. Le roi, sur le Jutland, pose son pied cynique. Mais qu'il brise le faible ou qu'il trompe le fort, quoi qu'il fasse, ils ont pour loi d'être d'accord. Oh, les noirs conquérants, et quelle œuvre éphémère! L'ambition, branlant ses têtes de chimère sous leur crâne brumeux, fétide et sans clarté, nourrit la pourriture et la stérilité. Ce qu'ils font est néant et cendre. Une hydre halète dans leur âme nocturne et profonde un squelette. Le Polonais sournois, l'Allemand hasardeux, remarque qu'à cette heure une femme est près d'eux. Tous deux guettent Mao. Et naguère avec rage, de sa bouche qu'empourpre une lueur d'orage et d'où sortent des mots pleins d'ombre et teints de sang, l'empereur a jeté cet éclair menaçant. L'Empire est là d'avoir au dos cette besace qu'on appelle la haute et la basse Lusace, et dont la pesanteur qui nous met sur les dents s'accroît quand par hasard une femme est dedans. Le Polonais se tait, épie et patiente. Ce sont deux grands dangers. Mais cette insouciante sourit, gazouille et danse, aime les doux propos, se fait bénir du pauvre et réduit les impôts. Elle a des tribunaux d'amour qu'elle préside. Au copiste d'Homère, elle paie un subside. Elle a tout récemment accueilli dans sa cour deux hommes, un luthier avec un troubadour, dont on ignore tout, le nom, le rang, la race. Mais qui, conteur charmant le soir sur la terrasse, à l'heure où les vitraux aux brises sont ouverts, lui font de la musique et lui disent des vers. Or, en juin, la Lusace, en nous, les Moraves font la fête du trône et sacrent leur margrave. C'est aujourd'hui le jour du burg mystérieux. Mao viendra ce soir souper chez ses aïeux. Qu'est-ce que tout cela fait à l'herbe des plaines, aux oiseaux, à la fleur, aux nuages, aux fontaines? Qu'est-ce que tout cela fait aux arbres des bois, que le peuple est des jougs et que l'homme est des rois? L'eau coule, le vent passe et murmure, qu'importe. La salle est gigantesque, elle n'a qu'une porte. Le mur fuit dans la brume et semble illimité. En face de la porte, à l'autre extrémité, brille, étrange et splendide, une table adossée au fond de ce lit vide et froid rez-de-chaussée. La salle a pour plafond les charpentes du toit. Cette table n'attend qu'un convive. On n'y voit qu'un fauteuil sous un dais qui pend aux poutres noires. Les anciens temps ont peint sur le mur leurs histoires. De beaux faisans tués par les traîtres faucons, des viandes froides, forces, aiguillères et flacons, chargent la table où s'offre une jonchée de sauge tout en fleurs nouvellement fauchées. Dehors,
c'est la ruine et c'est la solitude. On entend dans sa rauque et vaste inquiétude passer sur le hallier par les terres rajeunies le vent, onde de l'ombre et flot de l'infini. Au lueur du sept bras qui fait flamboyer presque les vagues yeux épars sur la lugubre fresque, on voit le long des murs, par places, un escabeau, quelques longs coffres obscurs à meubler le tombeau, et des buffets chargés de cuivre et de faïence. Et la porte, effrayante et sombre confidence, est formidablement ouverte sur la nuit. Rien ne parle en ce lieu d'où tout homme s'enfuit. La terreur, dans les coins accroupis, attend l'hôte. Cette salle à manger de titans est si haute qu'en égarant de poutre en poutre son regard aux étages confus de ce plafond hagard, on est presque étonné de n'y pas voir d'étoiles. La lumière a l'air noir et la salle a l'air morte. La nuit retient son souffle. On dirait que la porte a peur de remuer tout haut ses deux battants. Mais ce que cette salle, entre obscure des vieux temps a de plus sépulcral et de plus redoutable, ce n'est pas le flambeau, ni le dais, ni la table. C'est, le long des deux rangs d'arches et de piliers, deux files de chevaux avec leurs chevaliers. Chacun à son pilier s'adosse et tient sa lance. L'arme droite, ils se font vis-à-vis en silence. Jusqu'au pied des chevaux, les carapaçons pendent. La grande épée à main brille au croc de la selle. La hache est sur le dos, la dague est sous l'aisselle. Les genouillères ont leur boutoir meurtrier. Les mains pressent la bride et les pieds l'étrier. Ils sont prêts. Chaque homme est masqué de son crible. Tous se taisent, pas un ne bouge. C'est terrible. Les chevaux monstrueux ont la corne aux frontailles. Si Satan est berger, c'est là son noir bétail. Pour en voir de pareils dans l'ombre, il faut qu'on dorme. Ils sont comme engloutis sous la housse difforme. Les cavaliers sont froids, calmes, graves, armés. Effroyables. Les poings lugubrement fermés. Si l'enfer tout à coup ouvrait ses mains fantômes, on verrait quelques lettres affreuses dans leurs paumes. De la brume du lieu, leur stature s'accroît. Autour d'eux, l'ombre a peur et les piliers ont froid. Ô nuit, qu'est-ce que c'est que ces guerriers livides ? Chevaux et chevaliers sont des armures vides, mais debout, ils ont tous encore le geste fier, l'air fauve, et quoiqu'étant de l'ombre, ils sont du fer. Sont-ce des larves ? Non. Et sont-ce des statues ? Non. C'est de la chimère et de l'horreur vêtue des reins, et des bas-fonds de ce monde puni faisant une menace obscure à l'infini. Si quelqu'un à cette heure osait franchir la porte, à voir se regarder ces masques de la sorte, il croirait que la mort, à de certains moments, rhabillant l'homme, ouvrant les sépulcres dormants, ordonne, hors du temps, de l'espace et du nombre, des confrontations de fantômes dans l'ombre. Que font-ils là, debout et droits? Qu'attendent-ils ? L'aveuglement remplit l'armée aux durs sourcils. L'arbre est là sans la sève et le héros sans l'âme. Où l'on voit des yeux sombres, on vit des yeux de flamme. Les voilà tous muets, eux qui rugissaient tous, et grondant et grinçant rendaient l'éclairon fou. Le homme affreux n'a plus de cri dans ses gencives. Ses armures, jadis fauves et convulsives, ses haubères, autrefois pleins d'un souffle irrité, sont venus s'échouer dans l'immobilité, regarder devant eux l'ombre qui se prolonge et prendre dans la nuit la figure du songe. De ces spectres pensifs, l'odeur des temps s'exhale. Leur ombre est formidable au plafond de la salle. aux lueurs du flambeau frissonnant, au-dessus des blêmes cavaliers vaguement aperçus, elle remue et croît dans les ténèbres fêtes. Et la double rangée horrible de ses têtes fait dans l'énormité des vieux combles fuyants de grands nuages noirs aux profils effrayants. Et tout est fixe, et pas un coursier ne se cabre dans cette légion de la guerre macabre. Oh, ces hommes masqués sur ces chevaux voilés, chose affreuse. À la brume éternelle, mêlée, ayant chez les vivants fini leur tâche austère, muets, ils sont tournés du côté du mystère. C'est là qu'Eviradnus entre. Gasclin le suit. Le mur d'enceinte étant presque partout détruit, tout le burg et la salle elle-même, dit-on, sont bâtis sur des puits faits par le duc Platon. Le plancher sonne, on sent au-dessous des abîmes. « Page, dit ce chercheur d'aventure sublime, viens. Tu vois mieux que moi qui n'ai plus de bons yeux, car la lumière est femme et se refuse aux vieux. Garçon, vois-tu là-bas venir quelqu'un ? » Gasclin se penche hors du seuil. La lune est dans son plein. D'une blanche lueur, la clairière est baignée. Une femme à cheval. Elle est accompagnée. De qui ? Gasclin répond : Seigneur, j'entends les voix de deux hommes parlant et riant. Et je vois trois ombres de chevaux qui passent sur la route. Bien, dit Eviradnus. Ce sont eux. Page, écoute, tu vas partir d'ici. Prends un autre chemin, va-t'en sans être vu. Tu reviendras demain avec nos deux chevaux, frais, en bon équipage, au point du jour. C'est dit, laisse-moi seul. Le page, regardant son bon maître avec des yeux de fils, dit : Si je demeurais, ils sont deux. Je suffis. Va. Le héros est seul sous ses grands murs sévères. Il s'approche un moment de la table où les verres et les hanaps dorés et peints, petits et grands, sont étagés, divers pour les vins différents. Il a soif. Les flacons tentent sa lèvre avide. Mais la goutte qui reste au fond d'un verre vide trahirait que quelqu'un dans la salle est vivant. Il va droit aux chevaux. Il s'arrête devant celui qui, le plus près de la table, étincelle. Il prend le cavalier et l'arrache à la selle. La panoplie en vain lui jette un pâle éclair. Il saisit corps à corps le fantôme de fer et l'emporte au plus noir de la salle. Et, plié dans la cendre et la nuit, l'armure humiliée reste adossée au mur comme un héros vaincu. Eviradnus lui prend sa lance et son écu, monte en selle à sa place, et le voilà statu. Pareil aux autres, froid, la visière abattue. On n'entend pas un souffle à sa lèvre échappée, et le tombeau pourrait lui-même s'y tromper. Tout est silencieux dans la salle terrible. Écoutez, comme un nid qui murmure invisible, un bruit confus s'approche, et des rires, des voix, des pas sortent du fond vertigineux des bois. Et voici qu'à travers la grande forêt brune, qu'emplit la rêverie immense de la lune, on entend frissonner et vibrer mollement, communiquant au bois son doux frémissement, la guitare des monts d'Innsbruck, reconnaissable au grelot de son manche où sonne un grain de sable. Il s'y mêle la voix d'un homme, et ce frisson prend un sens et devient une vague chanson. Si tu veux, faisons un rêve, montons sur deux pales froids. Tu m'emmènes, je t'enlève, l'oiseau chante dans les bois. Je suis ton maître et ta proie, partons, c'est la fin du jour. Mon cheval sera la joie, ton cheval sera l'amour. Nous ferons toucher leurs têtes, les voyages sont aisés. nous donnerons à ces bêtes une avoine de baisers. Viens, nos doux chevaux mensonges frappent du pied tous les deux. Le mien au fond de mes songes et le tien au fond des cieux. Un bagage est nécessaire, nous emporterons nos vœux, nos bonheurs, notre misère et la fleur de tes cheveux. Viens, le soir brunit les chênes, le moineau rit, ce moqueur entend le doux bruit des chaînes que tu m'as mises au cœur. Ce ne sera point ma faute si les forêts et les monts, en nous voyant côte à côte, ne murmurent pas « aimons ». Viens, sois tendre, je suis ivre. Oh, les verts taillis mouillés, ton souffle te fera suivre des papillons réveillés. L'envieux oiseau nocturne, triste, ouvrira son œil rond. Les nymphes penchant leur urne dans les grottes souriront et diront « Sommes-nous folles, c'est Léandre avec héros. » En écoutant leurs paroles, nous laissons tomber notre eau. Allons-nous-en par l'Autriche, nous aurons l'aube à nos fronts, je serai grand et toi riche, puisque nous nous aimerons. Allons-nous-en par la terre, sur nos deux chevaux charmants, dans l'azur, dans le mystère, dans les éblouissements. Nous entrerons à l'auberge, et nous paierons l'hôtelier de ton sourire de vierge, de mon bonjour d'écolier. Tu seras dame et moi comte, viens, mon cœur s'épanouit. Viens, nous conterons ce conte aux étoiles de la nuit. La mélodie encore quelques instants se traîne sur les arbres bleuis par la lune sereine, puis tremble, puis expire. Et la voix qui chantait s'éteint comme un oiseau se pose. Tout se tait. Soudain, au seuil lugubre apparaissent trois têtes joyeuses, et d'où sort une lueur de fête. Deux hommes, une femme en robe de drap d'or. L'un des hommes paraît 30 ans, l'autre est encore plus jeune. Et sur son dos, il porte en bandoulière la guitare où s'enlace une branche de lierre. Il est grand et blond, l'autre est petit, pâle et brun. Ces hommes, qu'on dirait faits d'ombre et de parfum, sont beaux, mais le démon dans leur beauté grimace. Avril a de ses fleurs où rampe une limace. Mon grand Josse, mon petit Zéno, venez ici, voyez, c'est effrayant. Celle qui parle ainsi, c'est Madame Mao. Le clair de lune semble caresser sa beauté qui rayonne et qui tremble, comme si ce doux être était de ceux que l'air crée, apporte et remporte en un céleste éclair. Passer ici la nuit, certes un trône s'achète. Si vous n'étiez venu m'escorter en cachette, dit-elle, je serais vraiment morte de peur. La lune éclaire auprès du seuil, dans la vapeur, un des grands chevaliers adossés aux murailles. Comme je vous vendrais à l'encan ces ferrailles, dit Zéno. Je ferais, si j'étais le marquis, de ce tas de vieux clous sortir des vins exquis, des galas, des tournois, des bouffons et des femmes. Et, frappant ces terrains d'où sort le bruit des âmes, cette armure où l'on voit frémir le gantelet, calme et riant, il donne au sépulcre un soufflet. Laissez donc mes aïeux, dit Mao, qui murmure, vous êtes trop petit pour toucher cette armure. Bien dit, reprit Zéno, c'est un lieu de prodige. Et quant à moi, je vois des serpentes, des striges, tout un fourmillement de monstres s'ébaucher dans la brume qui sort des fentes du plancher. Mao frémit. Ce vin que l'abbé m'a fait boire va bientôt m'endormir d'une façon très noire. Jurez-moi de rester près de moi. J'en réponds, dit Josse. Et Zéno dit, je le jure, soupons. Et, riant et chantant, ils s'en vont vers la table. Je fais josse chambellan et zéno connétable, dit Mao. Et tous trois causent, joyeux et beau. Elle sur le fauteuil, eux sur des escabeaux. Jos mange, zéno boit, Mao rêve. Cependant, par degrés, le narcotique éteint ses yeux d'ombre enivrée. Zéno l'observe, un doigt sur la bouche. Elle penche la tête et, souriant, s'endort, sereine et blanche. Zéno lui prend la main qui retombe. Elle dort, dit Zéno. Maintenant, vite, tirons au sort. D'abord, à qui l'état ? Ensuite, à qui la fille ? Dans ces deux profils d'homme, un œil de tigre brille. Frère, dit Jos, parlons politique à présent. La Mao dort et fait quelques rêves innocents. Nos griffes sont dessus. Nous avons cette folle. L'ami de dessous terre est sûr et tient parole. Concluons. Guerroyer, se chamailler pour rien, pour un oui, pour un non, pour un dogme à rien dont le pape sournois ira dans la coulisse, pour quelques filles ayant une peau fraîche et lisse, des yeux bleus et des mains blanches comme le lait. C'était bon dans le temps où l'on se querellait pour la croix byzantine ou pour la croix latine. Et quand Pépin tenait un synode à Leptine, et quand Rodolphe et Jean, comme deux hommes sous, glaive au poing, s'arrachaient leur Agnès de deux sous. Aujourd'hui, tout est mieux et les mœurs sont plus douces. Frère, on ne se met plus ainsi la guerre aux trousses et l'on sait en ami régler indifférent. As-tu des dés ? J'en ai. Celui qui gagne prend le marquisat, celui qui perd a la marquise. Bien. J'entends du bruit. Non, dit Zéno, c'est la bise qui souffle bêtement et qu'on prend pour quelqu'un. As-tu peur ? Je n'ai peur de rien que d'être à jeun, répond Jos. Et sur moi que les gouffres s'écroulent. Finissons, que le sort décide. Les dés roulent. 4. Jos prend les dés. 6. Je gagne tout net. J'ai trouvé la Lusace au fond de ce cornet. Dès demain, j'entre en danse avec tout mon orchestre. Taxe partout. Payé. La corde ou le séquestre. Des trompettes d'airain seront mes galoubets. Les impôts se la poussent en plantant des gibets. Zéno dit, j'ai la fille, et bien, je le préfère. Elle est belle, dit Jos. Pardieu, qu'en vas-tu faire ? Un cadavre. Et Zéno reprend. En vérité, la créature m'a tout à l'heure insulté. Petit. Voilà le mot qu'a dit cette femelle. Si l'enfer m'eût crié, béant sous ma semelle, dans la sombre minute où je tenais les dés. Fils, les hasards ne sont pas encore décidés. Je t'offre le gros lot, la Lusace aux sept villes. Je t'offre 10 pays de blé, de vins et d'huile, à ton choix, ayant tout leur peuple diligent. Je t'offre la Bohême et ses mines d'argent. Ce pays, le plus haut du monde, ce grand antre, d'où plus d'un fleuve sort ou pas un ruisseau n'entre. Je t'offre le Tyrol au mont d'azur rempli, et je t'offre la France avec les fleurs de lys. Qu'est-ce que tu choisis ? J'aurais dit la vengeance. Et j'aurais dit enfer, plutôt que cette France et que cette Bohême et ce Tyrol si beau. Mais à mes ordres, l'ombre et les vers du tombeau. Mon frère, cette femme absurdement marquise, d'une marche terrible où tout le nord se brise et qui, dans tous les cas, est pour nous un danger, ayant été stupide au point de m'outrager, il convient qu'elle meure. Et puisqu'il faut tout dire,
je l'aime. Et la lueur que de mon cœur je tire, je la tire du tien. Tu l'aimes aussi, toi. Frère, en faisant ici, chacun dans notre emploi, les bohèmes pour mettre à fin cet équipé, nous sommes devenus près de cette poupée, niais, toi comme un page et moi comme un barbon, et de galants pour rire, amoureux pour de bon. Oui, nous sommes tous deux épris de cette femme. Or, frère, elle serait entre nous une flamme. Tôt ou tard, et malgré le bien que je te veux, elle nous mènerait à nous prendre aux cheveux. Vois-tu, nous finirions par rompre notre pacte, nous l'aimons. Tournons-la. Ta logique est exacte, dit Josse, rêveur, mais quoi, du sang ici? Zeno pousse un coin du tapis, tâte et prend un anneau, le tire, et le plancher se soulève. Un abîme s'ouvre, il en sort de l'ombre ayant l'odeur du crime. Josse marche vers la trappe, et les yeux dans les yeux, Zeno muet la montre à Josse, silencieux. Josse se penche, approuvant de la tête le gouffre. S'il sortait de ce puits une lueur de soufre, on dirait une bouche obscure de l'enfer. La trappe est large assez pour qu'en un brusque éclair, l'homme étonné qu'on pousse y tombe à la renverse. On distingue les dents sinistres d'une herse. Es-tu sûr que Mao ne se réveille point? Son œil est clos ainsi que je ferme mon poing. Elle le dort d'une sorte âpre et surnaturelle, l'obscure volonté du philtre étant sur elle. Elle s'éveillera demain au point du jour, dans l'ombre. Et que va dire ici toute la cour quand au lieu d'une femme ils trouveront deux hommes? Tous se prosterneront en sachant qui nous sommes. Où va cette oubliette? Au torrent, au corbeau, au néant. Finissons. Ces hommes, jeunes, beaux, charmants, sont à présent difformes, tant s'effacent sous la noirceur du cœur le rayon de la face, tant l'homme est transparent à l'enfer qui l'emplit. Il s'approche. Mao dort comme dans un lit. Allons. Josse la saisit sous les bras et dépose un baiser monstrueux sur cette bouche rose. Portant Mao, qui dort toujours, il marche lent, courbé, en silence, à pas lourds, Zeno tourné vers l'ombre et Josse vers la lumière. La salle aux yeux de Josse apparaît tout entière. Tout à coup, il s'arrête, et Zeno dit « Eh bien !» Mais Josse est effrayant. Pâle, il ne répond rien et fait signe à Zeno qui regarde en arrière. Tous deux semblent changés en deux spectres de pierre, car tous deux peuvent voir, là, sous un cintre obscur, un des grands chevaliers rangé le long du mur qui se lève et descend de cheval. Ce fantôme tranquille sous le masque horrible de son homme vient vers eux et son pas fait trembler le plancher. On croit entendre un dieu de l'abîme marcher. Entre eux et l'oubliette, il vient barrer l'espace et dit le glaive haut et la visière basse, d'une voix sépulcrale et lente comme un glas. Arrête, Sigismond,
Arrête, Ladislas. Homme qui m'écoutait, il est un pacte sombre dont tout l'univers parle et que vous connaissez. Le voici. Moi, Satan, dieu des cieux éclipsés, roi des jours ténébreux, prince des vents contraires, je contracte alliance avec mes deux bons frères, l'empereur Sigismond et le roi Ladislas. Sans jamais m'absenter ni dire « je suis là », je les protégerai dans toute conjoncture. De plus, je cède en libre et pleine investiture, étant seigneur de l'onde et souverain du mont, la mer à Ladislas, la terre à Sigismond, à la condition que, si je le réclame, le roi m'offre sa tête et l'empereur son âme. Serait-ce lui, dit Jos. Spectre, aux yeux fulgurants, es-tu Satan? Je suis plus et moins. Je ne prends que vos têtes, ô roi des crimes et des trames, laissant sous l'ongle noir se débattre vos âmes. Oh, Ladislas est roi, Sigismond est César. Dieu n'est bon qu'à servir de roue à votre char. Toi, tu tiens la Pologne avec ses villes fortes. Toi, Milan t'a fait duc, Rome empereur. Tu portes la couronne de fer et la couronne d'or. Toi, tu descends d'Hercule et toi de Spartibore. Vos deux tiars sont les deux leveurs du monde. Tous les monts de la terre et tous les flots de l'onde ont, altiers ou tremblants, vos deux ombres sur eux. Vous êtes les jumeaux du grand vertige heureux. Vous avez la puissance et vous avez la gloire. Mais sous ce ciel de pourpre et sous ce dais de moire, sous cette inaccessible et haute dignité, sous cet arc de triomphe au cintre illimité, sous ce royal pouvoir couvert de sacrés voiles, sous ces couronnes tas de perles et d'étoiles, sous tous ces grands exploits prompts, terribles, fougueux, Sigismond est un monstre et Ladislas un gueux. Dégradation du sceptre et de l'épée. Noire main de justice aux cloaques trempées, devant l'hydre le seuil du temple ouvre ses gonds, et le trône est un siège aux croupes des dragons. Siècle infâme. Oh, grand ciel étoilé, que de honte. Tout rampe, pas un front où le rouge ne monte. C'est égal, on se tait et nul ne fait un pas. Oh, peuple, millions et millions de bras, toi que tous ces rois-là mangent et déshonorent, toi que leur majesté les vermines dévore, est-ce que tu n'as pas des ongles, vil troupeau, pour ces démangeaisons d'empereurs sur ta peau? Du reste, en voilà deux de prix. Deux âmes telles que l'enfer même rêve étonné devant elles. Sigismond, Ladislas, vous étiez triomphant, splendide, inouï, prospère, étouffant. Le temps d'être puni arrive à la bonne heure. Oh, le vautour, l'armoire et le caïman pleurent. J'en ris. Je trouve bon qu'en de certains instants, les princes, les heureux, les forts, les éclatants, les vainqueurs, les puissants, tous les bandits suprêmes, à leur front cerclé d'or, chargé de diadèmes, sentent l'âpre sueur de Josaphat monter. Il est doux de voir ceux qui hurlaient sangloter. La peur après le crime, après l'affreux, l'immonde, c'est bien, Dieu tout-puissant. Quoi? Des maîtres du monde? C'est ce que dans la cendre et sous mes pieds, j'ai là. Quoi? Ceci règne? Quoi? C'est un César, cela? En vérité, j'ai honte, et mon vieux cœur se serre de les voir se courber plus qu'il n'est nécessaire. Finissons. Ce qui vient de se passer ici, prince, veut un linceul proprement épaissi. Votre siècle commence à trouver vos altesses lourdes d'iniquités et de scélératesses. Il est là. C'est pourquoi je vous jette au monceau d'ordures que des ans emportent le ruisseau. Ces jeunes gens penchés sur cette jeune fille, j'ai vu cela. Dieu bon, sont-ils de la famille des vivants, respirant sous ton clair horizon? Sont-ce des hommes? Non, rien qu'à voir la façon dont vos lèvres touchent aux vierges endormies. Prince, on sent en vous des goules, des lamis, d'affreux êtres sortis des cercueils soulevés. Je vous rends à la nuit. Tout ce que vous avez de la face de l'homme est un mensonge infâme. Vous avez quelques bêtes effroyables au lieu d'âme. Sigismond, l'assassin, Ladislas, le forban, vous êtes des damnés en rupture de ban. Donc, lâchez les vivants et lâchez les empires. Hors du trône, tyran, à la tombe, vampire, chien du tombeau, voici le sépulcre, rentrez! Et son doigt est tourné vers le gouffre. Atterré, il s'agenouille. Oh, dit Sigismond, fantôme, ne nous emmène pas dans ton morne royaume. Nous t'obéirons. Dis, qu'exiges-tu de nous? Grâce. Et le roi dit, vois, nous sommes à genoux, spectre. Une vieille femme à la voix moins débile. La figure qui tient l'épée est immobile et se tait comme si cet être souverain tenait conseil en lui sous son linceul d'airain. Tout à coup, élevant sa voix grave et hautaine, prince, votre façon d'être lâche me gêne. Je suis homme et non spectre. Allons, debout, mon bras est le bras d'un vivant. Il ne me convient pas de faire une autre peur que celle où j'ai coutume. Je suis Eviradnus.
Sigismond s'est dressé comme un dogue en arrêt. Ladislas bondit, hurle, ébauche une huée, grince des dents et rit. Et comme la nuée résume en un éclair le gouffre pluvieux, toute sa rage éclate en ce cri. C'est un vieux. Le grand chevalier dit, regardant l'un et l'autre, roi, un vieux de mon temps vaut deux jeunes du vôtre. Je vous défie à mort, laissant à votre choix d'attaquer l'un sans l'autre ou tous deux à la fois. Pendant que, grave et froid, il déboucle sa chape, Ladislas, furtif, prend un couteau sur la nappe, se déchausse, et rapide et bras levés, pieds nus, il se glisse en rampant derrière Eviradnus. Mais Eviradnus sent qu'on l'attaque en arrière, se tourne, empoigne et tord la lame meurtrière, et sa main colossale étreint comme un étau le cou de Ladislas qui lâche le couteau. Dans l'œil du nain royal, on voit la mort paraître. Je devrais te couper les quatre membres, traître, et te laisser ramper sur tes moignons sanglants. Tiens, dit Eviradnus, meurs vite. Et sur ses flancs, le roi s'affaisse, et blême et l'œil, hors de l'orbite sans un cri, tant la mort formidable et subite, il expire. L'un meurt, mais l'autre s'est dressé. Le preux, en délassant sa cuirasse, a posé sur un banc son épée, et Sigismond l'a prise. Le jeune homme effrayant rit de la barbe grise. L'épée au poing, joyeux, assassin, rayonnant, croisant les bras, il crie « À mon tour, maintenant !» Et les noirs chevaliers, juges de cette lisse, peuvent voir, à deux pas du fatal précipice, près de Mao qui semble un corps inanimé, Eviradnus sans armes et Sigismond armé. Le gouffre attend. Il faut que l'un des deux y tombe. Voyons un peu sur qui va se fermer la tombe, dit Sigismond. C'est toi le mort, c'est toi le chien. Le moment est funèbre. Eviradnus sent bien qu'avant qu'il ait choisi dans quelque armure un glaive, il aura dans les reins la pointe qui se lève. Que faire? Tout à coup, sur Ladislas gisant, son œil tombe. Il sourit, terrible. et se baissant de l'air d'un lion pris qui trouve son issue. Et, dit-il, je n'ai pas besoin d'autre massue. Et prenant au talon le cadavre du roi, il marche l'empereur qui chancelle d'effroi. Le cadavre éperdu se rend vers son arrière, et les bras disloqués font des gestes hideux. Lui crie, « Arrangez-vous, prince, entre vous deux. Si l'enfer s'éteignait dans l'ombre universelle, on le rallumerait, certes, avec l'étincelle qu'on peut tirer d'un roi heurtant un empereur. Sigismond, sous ce mort qui plane, ivre d'horreur, recule sans la voir vers la lugubre trappe. Soudain, le mort s'abat et le cadavre frappe.
Eviradnus est seul. Et l'on entend le bruit de deux spectres tombant ensemble dans la nuit. Le preux se courbe au seuil du puits, son œil y plonge. Et, calme, il dit tout bas comme parlant en songe, « C'est bien. Disparaissez le tigre et le chacal. » Il reporte Mao sur le fauteuil du calme. Et de peur qu'au réveil, elle ne s'inquiète, il referme sans bruit l'infernale oubliette. Puis remet tout en ordre autour de lui, disant « La chose n'a pas fait une goutte de sang, c'est mieux. » Mais tout à coup, la cloche au loin éclate. Les monts gris sont bordés d'un long fil écarlate. Et voici que, portant des branches de genêt, le peuple vient chercher sa dame. L'aube naît, les hameaux sont en branle, on accourt. Et, vermeil, Mao, en même temps que l'aurore, s'éveille. Elle pense rêver et croit que le brouillard a pris ses jeunes gens pour en faire un vieillard. Et les cherche des yeux. Les regrettant peut-être. Eviradnus salue, et le vieux vaillant maître s'approchant d'elle avec un doux sourire ami. Madame, lui dit-il, avez-vous bien dormi ?
La radiodiffusion française vous a présenté les riches heures du poème légendaire. Une émission d'Alain Barou réalisée par le Club d'essai. Aujourd'hui, Eviradnus de Victor Hugo avec le concours d'Alain Cuny. Musique originale de Maurice Jarre, mise en onde d'Alain Barou.
Cette version radiophonique de Eviratnus de Victor Hugo a été diffusée la première fois le 25 août 1957 sur la chaîne nationale.